Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Bon, voilà. Levé de rideau. Après avoir fini cette chose ratée et qui paraîtra indigeste pour beaucoup, mais il fallait que je le fasse, car violence et crépuscule est un cri, mon cri, mon cri de douleur, parce que je vois mourir tout ce que j'aime. Ce cri, je l'ai souvent mal exprimé, mais j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Une fois que j'ai eu fini, violence et crépuscule, et qui est un peu mon testament sur ce que je suis, aime, j'ai ressenti un grand vide, une envie de mourir. Il me manquait quelque chose. Pourtant, dès que j'ai eu fini, j'étais soulagé. Et je me disais que j'allais enfin pouvoir me reposer. J'ai tout rangé, fait le ménage, et après, le vide. Il est vrai, c'est que durant plusieurs mois, j'ai vécu tous les jours avec cette histoire, ses personnages, son ambiance. Pendant 10 mois, j'ai écrit des pages et des pages. Je voulais m'essayer à écrire une grande histoire au lieu de faire des petites nouvelles de 17 pages. J'ai écrit avec difficulté, car je n'arrivais pas à entrer dans mes personnages. Après l'avoir écrit, j'ai eu l'enregistrement à faire. Je faisais tous les jours, de 7h du matin à 11h30 et 13h30 à 22h. C'était dur. Donc, après tout ça, je me suis senti vidé, goût à rien, dépressif. J'ai essayé de faire autre chose, de lire, mais je n'y arrivais pas. Alors, pour sortir de cette angoisse, j'ai écrit 3 jours plus tard 2 scénarios de film. Et comme cela ne suffisait pas, j'ai tourné un des 2. Et en plus, le montage images et sons. Les images avec trucage numérique au chromaquet. J'ai acheté un tissu bleu pour le faire. Je l'ai tourné et mis en scène moi seul. Cela s'appelle Le Jardin. Ça dure dans les 35 minutes. C'est l'histoire d'un écrivain qui cherche un sujet de livre. Il trouve par hasard un jardin et se noie dans le décor. Le créateur se fond dans son œuvre. Après ce film, j'ai refait le son de La Nuit à la mort, dont les 45 premières minutes n'étaient pas bonnes. J'ai pris la décision de ne plus présenter mes films, car il suffit que les gens vous connaissent pour qu'ils regardent le film juste pour voir vos erreurs. De toute façon, ils ne plaisent pas. Après ma mort, peut-être qu'avec l'ensemble de ce que j'ai fait, ils comprendront mieux. Je me suis reposé un peu et pensé à ma prochaine histoire. Là, je la voulais plus près de ce que j'aime, de ce que j'aime vraiment écrire, quelque chose d'humain. Je prends des notes et réfléchis pendant des heures, des jours. Je souffre beaucoup, car je ne supporte pas la vie. Il faut que je me trouve dans une de mes histoires avec mes personnages. Pour certains, je les aime plus que les humains, parce qu'ils sont plus humains que les vrais et plus beaux. La beauté m'est indispensable, la noblesse, l'élégance. Oui, l'élégance aussi. Le plus difficile, c'est de trouver un thème et le début de l'histoire. Comment ? Commencer comment ? Par quoi ? Et puis, malgré que l'on a l'histoire dans la tête, il faut avoir le courage de la mettre par écrit. Là, c'est un sacré travail, car c'est pénible, douloureux d'écrire. Et puis, très souvent, ce que l'on met sur le papier, ça tombe à plat, à côté de ce que l'on a dans la tête. Et au fur et à mesure que l'on écrit, on a d'autres sujets, d'histoires qui vous assaillent, et celles que l'on est en train d'écrire vous intéressent moins. Quelquefois aussi, vous avez une belle phrase bien philosophique que vous voulez garder à introduire dans ce que vous écrivez. Malheureusement, elle n'entre pas dans ce... et vous êtes obligé d'inventer quelque chose pour l'introduire. Comme vous voyez, tout en écrivant, le cerveau, lui, se refuse à se fixer sur une seule chose et veut vous faire voyager. Votre rôle, c'est d'avoir suffisamment de force, de caractère pour le faire obéir. Ce n'est pas facile. Surtout ne pas entrer dans le piège du temps, qui est l'alibi du cerveau et vous dit constamment « Tu as le temps de le faire, va doucement, et même, arrête-toi un moment. » Il vaut mieux écrire dans le calme que dans la fièvre. Si je suis ses conseils, je n'arriverai à rien, et plus le temps avance, moins j'ai envie d'écrire, et moins le sujet me plaît. Il n'y a donc que dans la fièvre que je peux écrire et que j'écris le mieux. Car si j'écris lentement, mollement, l'écriture est aussi lente et molle. Donc, allons-y, puisque j'ai trouvé le sujet, et fais un plan. Rideau. Napoléon III doit bien sentir que l'alliance de Vienne n'est pas assurée. Lorsqu'en novembre 1869, il envoie comme ambassadeur en Russie son ami le général Flory. Il veut montrer sa loyauté au tsar et le danger d'une trop grande puissance de la Prusse et de l'éloigner de cette alliance de famille si favorable à Berlin. Flory réussit bien personnellement. Le tsar l'invite à prendre place dans son traîneau personnel. D'ailleurs, Alexandre veut surveiller l'Autriche et non la France, contre laquelle il n'a aucune intention hostile. Mais il est attaché à la paix et soupçonne Napoléon de vouloir la troubler. Après l'arrivée au pouvoir des hommes de l'Empire libéral, le 2 janvier 1870, le nouveau ministre des Affaires étrangères renonce à toute négociation poussée avec le tsar. Le nouveau ministre veut la paix avec la Prusse et par l'intermédiaire de Londres. Propose à Berlin un désarmement bilatéral qui bien entendu échoue. Le problème qui domine la politique extérieure française est la suivante. Que faire si la Confédération du Nord de l'Allemagne réunit les États du Sud? Après la démission du ministre, c'est Gramont qui le remplace aux affaires étrangères et qui est très hostile à Bismarck. Napoléon III est loyal sur la vue de ses ministres, mais ne partage pas les illusions généreuses d'Olivier vis-à-vis de la Prusse. Voit la France mal préparée militairement et craint une mauvaise surprise. Il prépare un brouillon de lettres à chaque député pour lui demander de ne pas voter la réduction du contingent. Mais, par scrupule du souverain constitutionnel, il n'envoie pas la lettre. Tout a commencé par l'Espagne qui se cherche un nouveau roi. Napoléon a son sub-projet. Pensant que la République n'est pas possible dans ce pays, il souhaite l'abdication d'Isabelle, suivie d'une régence exercée au nom de son fils, le prince des Astrides. La Prusse veut un autre prétendant et le 2 juillet, la candidature de Léopold est rendu public sans que la France se soit avertie. Ce procédé est parfaitement incorrect vis-à-vis de la France. Ce qui décida de tout fut la réaction de l'opinion à Paris. Elle atteignit une violence incroyable. En même temps que les grands événements de la rue politique se déroulent, l'homme vit sa vie privée et personnelle, qui quelquefois lui paraissent plus importantes que les grands bouleversements de l'histoire. Car même dans les moments les plus tragiques, les plus horribles, l'homme garde en lui-même son moi qui fait qu'il est une personne unique et entière. Une foule ne peut pas être une masse d'hommes, mais est formé d'un groupe plus ou moins important d'êtres indépendants et unis à l'instant par une idée, ce qui ne l'empêche pas de rester un lui-même. Donc, le privé se mélange à l'intérieur de l'être, le privé agit sur le public sur le privé. Quelquefois, les grands bouleversements publics nous viennent de la vie privée. Exemple, le changement des mœurs, la justice, le social sont en partie privés. La pièce est tout juste éclairée par une petite lampe à huile posée sur une table. La lumière est tellement faible qu'on en est incapable de deviner ni la profondeur de la pièce ni ses meubles. Dans l'ombre, un homme parle à son fils. « Il ne faut pas que tes sentiments organisent ta vie. Ne te laisse pas berner par les apparences trompeuses d'un beau visage. » Ce n'est que le masque de la mort, un masque qui s'effrite au cours du temps. Aime, oui, mais n'en fais pas le seul but de ta vie. Pourquoi, père? C'est pour t'éviter des souffrances.
Écartez-vous, s'il vous plaît. Bonjour.
Rien n'est plus fastidieux que de décrire. Mais c'est la seule façon que vous puissiez voir ce que je vois. Près de Lyon, sur les quais de Saône, après l'île Barbe, un mur de pierre protège une propriété privée où du côté Saône se trouve un grand portail en fin, pair en noir. En entrant dans la propriété, vous vous trouvez dans un parc, ou plutôt une grande prairie en forme de monticule avec des arbres et au centre, un chemin de gravier qui monte jusqu'à une plateforme en guise de terrasse. Plateforme de gravier aussi, avec au-dessus une table ronde en métal peint en blanc et ses chaises de jardin. Deux rampes de pierre à gauche et à droite délimitent la terrasse, et au fond de la terrasse se trouve la maison. Une robuste maison de pierre beige, où, sur le devant, s'agrippe du lierre. La maison a 3 étages, son style indéfini. A été construite il y a de cela 30 ans par M. Constantin Bonnardin, homme de bien qui a fait sa fortune en spéculant dans l'immobilier et les terrains. Cette maison, il la donnera à son fils lorsqu'il sera majeur et retournera habiter à la campagne. Pour le moment, son fils n'est qu'un jeune adolescent. On entre dans la maison par une double porte vitrée qui donne directement sur la terrasse. Elle se trouve au centre, avec ses fenêtres sur les 4 côtés, son toit en tuiles et le lierre, la maison paraît plutôt imposante que belle. Elle n'a aucune garniture extérieure. Nous allons visiter la maison pendant que ses habitants dorment encore. Comme cela, ce sera fait et ça me permettra de ne pas ralentir le déroulement de l'action par des descriptions du décor. Une fois avoir franchi la porte, une odeur de cire et de parfum féminin vous prend. L'on se trouve dans le hall d'entrée, grand rectangulaire, qui a 2 portes de chaque côté, et en face de l'entrée, un escalier de pierre qui est majestueux par sa forme et sa rampe. Le sol du hall est carrelé noir et blanc, les murs tapissés moirés rosés. La pièce de droite donne dans la salle à manger. C'est une grande pièce rectangulaire avec de grands meubles Louis-Philippe. Elle est plutôt sombre à cause de ses gros meubles et surtout des doubles rideaux épais qui bouchent une fois ouverts près de la moitié de la fenêtre. Les doubles rideaux sont beige avec des fleurs roses rouges comme le tissu sur le mur. Le sol, c'est du plancher. Il y a un grand et épais tapis sous la table. Il y a une 2e porte à la salle à manger. Cette 2e porte donne au service, c'est-à-dire la cuisine, le garde-manger, la lingerie, de la cuisine, l'on peut passer directement au parc par l'entrée de service. La pièce qui est en face de la salle à manger c'est un salon. Là aussi, pas très clair. Des fauteuils, des chaises, des tables basses, des plantes vertes, tapissées en tissu bordeaux. Maintenant, montons les escaliers. Au 1er étage, se trouve un couloir. Qui donne à un vaste bureau en pierre. À bibliothèque. Un autre salon. À une salle de billard. Et un fumoir. Maintenant, nous allons aller au deuxième étage. Oui, nous étions au premier, maintenant au deuxième. Là, nous trouvons la chambre du père. Celle de la mère. La chambre de l'aîné des garçons. Du dernier des garçons. Celle de la fille. La chambre d'amis, et une nursery. Maintenant, nous allons aller au troisième étage. Le troisième étage est celui des chambres des domestiques. Avec un lavabo dans le couloir pour l'eau de la toilette. Il y a le majordome, le jardinier, la bonne, la femme de chambre, la cuisinière et le cocher. Leurs chambres, avant ce que l'on appelle des chambres de bonne, c'est-à-dire juste de quoi mettre un lit à une place, une chaise, une table et une minuscule penderie, la lumière vient d'une petite fenêtre carrée. Ici, dans cette maison, la vie se fait à pas feutrée, à voix basse. On est toujours en représentation. Les maîtres jouent leur rôle devant les domestiques jouent le leur devant eux. Et comme chacun est souvent en représentation devant l'autre, l'on n'arrête pas de jouer. Ce qui est fait qu'en même temps, entre gens de la même classe ou du même sang, la joue-t-on jusque dans la plus grande intimité, au fond d'un lit, dans le corps de l'autre. Que ce soit chez les maîtres ou chez les domestiques. Mais à des moments où la tension monte ou se détend, cela permet à chacun pendant un moment de devenir soi-même. Heureusement pour le narrateur, car il n'aurait rien à raconter. Rien à raconter. La description du décor est finie. Vous connaissez les tensions politiques de ce début de mois de juillet 1870. Il est 6 heures. La maison va commencer à s'animer. Thank you. d'abord les domestiques qui vont aller préparer le petit déjeuner. Faire chauffer l'eau du bain. Et sortir les vêtements des maîtres. Jules, le dernier des enfants, à peine sorti du sommeil, au fond des draps sort une charmante petite tête de 10 ans aux cheveux châtains. Il regarde autour de lui pour se retrouver. La pièce est encore sombre, mais il sait qu'il fait jour, car une fine clarté qui provient des rideaux mal fermés va se poser sur le mur d'en face. Qu'il va falloir se lever et affronter une nouvelle journée.
Il se lève d'un bond. En chemise de nuit, mais ses chaussures pour aller dans la salle de bain.
Une demi-heure plus tard, il sort de la salle de bain pour aller à la salle à manger, prendre son petit déjeuner. Là, il retrouve son frère et sa sœur qui sont déjà attablés. Il va s'asseoir en face de son frère et de sa sœur. Un domestique à cheveux gris le sert. Jules aime tremper son pain grillé dans son café, ce qui fait hausser les épaules de sa sœur et lui dire « Tu es dégoûtant de manger comme ça !» Sa sœur est une jeune fille, une magnifique poupée de 13 ans, avec des cheveux blonds mi-longs qui ondulent, un merveilleux petit visage coquin. Elle porte une robe beige. Le frère de Jules, Charles-André, à 15 ans, il est blond lui aussi, le regard doux et rêveur, est habillé d'un costume marine. Apolline regarde Charles-André prendre son petit déjeuner, déjà avec des gestes d'homme. Elle le trouve très beau. Les enfants mangent en silence. Brioche et tartine, à cause des domestiques et aussi parce qu'ils pensent à ce qu'ils devront faire dans la journée. Ils sont tous les trois dans des écoles privées à Fourvière. La porte s'est ouverte. C'est leur mère, Henriette Bonandin. Une grande femme mince, les cheveux en chignon, blond, le visage clair. Elle porte une robe beige.
Bonjour les enfants.
Elle les embrasse. Jules adore son parfum. Elle leur dit.
À midi, je ne serai pas là. Je déjeune avec mon amie Hélène. Mais je serai présente pour la distribution des prix. Dépêchez-vous de finir de manger. Il est l'heure de partir. Votre bonne vous attend pour vous mener à l'école.
Je lui dis. Nous sommes assez grands pour aller seul, mère.
Tu n'y penses pas, avec toute la circulation qu'il y a en ville. Et puis, si vous étiez pris par des émeutiers, ton père t'a expliqué que nous vivions une période très tendue et que nous risquions d'avoir la guerre.
Charles-André lui dit. Il va enfin se passer quelque chose. S'il y a la guerre, je veux partir me battre.
Sa mère hausse ses épaules lui dit. Tu es beaucoup trop jeune pour aller te battre. C'est ridicule ce que tu dis.
Charles-André lui répond. Tout le monde sait que le prince impérial ira sur le champ de bataille avec son père, lui. Et pourtant, il n'a que 14 ans.
Sa mère lui dit. Peut-être bien, mais c'est le fils de l'empereur. Ce n'est pas la même chose. Toute la famille impériale, dans les temps difficiles, doivent donner l'exemple.
Je lui demande. Et papa, il risque d'aller à la guerre?
Non, ton père n'est pas en âge. Et puis, il a des responsabilités, charge de famille. Allez, les enfants. Hâtez-vous. Il est temps de partir.
Jean lui dit. Nous ne sommes plus des enfants, Charles et moi.
Peut-être, mais pour moi, vous l'êtes toujours.
Ils se lèvent tous en laissant leur petit déjeuner à moitié pris et vont vers leur mère. Pour lui dire au revoir.
Au revoir mes enfants, j'espère que vous avez bien pris vos leçons pour aujourd'hui et que vos mains sont propres. J'ai pas le temps de contrôler tout ça. Nous verrons cet après-midi pour la distribution des prix.
Jules lui dit. Mais nous n'avons pas de leçons aujourd'hui. Les enfants sortent en courant de la pièce. Ils trouvent dans le couloir la bonne, habillée. Près d'elle, l'écartable à terre, qui les attend. C'est une jeune femme devant les 25 ans. Les enfants prennent leur cartable et sortent de la maison. Dehors, le ciel est bleu, il fait doux. L'herbe de la pelouse est bien verte. C'est le début d'un beau mois de juillet. Une fois que le portail est ouvert, les enfants traversent avec la bonne pour se trouver du côté Saône pour voir passer les péniches tout en suivant la bonne. Longent les quais, prennent une passerelle et vont de l'autre côté et, là, prennent une rue étroite qui monte à Fourvière pour aller à leur lycée. C'est le lycée Saint-Benoît, tenu par les pères et des religieuses pour les filles. Arrivés vers le lycée, qui est une grande bâtisse qui ressemble à un couvent, ils se séparent. Jean va vers les parties réservées aux filles, Charles-André chez les grands.
Je te mentais, hein.
C'est agile, cette blague.
Non, en anglais, McCroy.
Mais c'est pas une question que je vais poser là-bas, je saurais quand même bien où je suis.
Au fait, par quelle ville arrivons-nous? Los Angeles?
Dans la cour de sa division, Jules retrouve Maurice Béguin, un garçon de 12 ans, grand, pour son âge, mince, les cheveux blonds, un regard coquin et beau. Il porte un costume beige. Maurice lui demande Tu as parlé à ta sœur ? Je lui réponds. Non, non mon vieux. Premièrement, elle te trouve trop jeune et bête. Deuxièmement, nous partons en vacances. Tu n'as aucune chance. Puis, ma sœur n'aime que les grands garçons, plus vieux qu'elle. Maurice fait la moue et lui dit « Bon, eh bien, je te quitte. » Jules a le corps serré. « Tu ne restes pas avec moi ?»« Non. »« Non, je ne reste pas avec toi. » Et notre amitié, qu'est-ce que tu peux être collant, mon vieux ? Et il le quitte. Jules a le corps gros. Il aime beaucoup Maurice. Il le trouve beau, fort. Et pense à lui sans arrêt. Mais se dit qu'il s'est servi de lui. Il a toujours demandé du service, des services, de la menu-monnaie, des devoirs à faire, des messages pour sa sœur. Tout cela durant toute l'année scolaire. Il l'a flatté. Il lui permettait d'extérioriser son amour. Et puis, Jules se dit que Maurice, parce qu'il lui demandait des services, qu'il lui faisait confiance, qu'il avait l'amitié pour lui, il croyait que Maurice était sincère, mais maintenant il s'aperçoit que Maurice est fou. C'est un fourbe, mais pas du tout sincère. Cloche a retenti. Il faut rejoindre sa classe. Aujourd'hui, dernier jour d'école. Rejoignant les autres, il voit Maurice. Le corps gros, il s'approche de lui. Et lui dit, je veux te parler. Maurice lui répond, lâche-moi. Tu m'as t'es cramponné à moi durant toute cette année. Laisse-moi la paix. Et il s'éloigne. Jules se sent tout triste. Il sent l'injustice du monde tomber sur lui. Plus tard, il retrouve Maurice avec un groupe de jeunes dans la cour. Maurice, en le voyant, dit à ses camarades « Voilà, mademoiselle, qui va chercher une caresse. » Les autres rient. Jules devient tout rouge et s'éloigne, le corps gros. Il a envie de pleurer, de mourir. Il ne sait plus. Il va se mettre dans un coin du préau, le dos au mur. Il voit de loin Maurice, son ami, qui rit aux éclats avec les autres. Il est sûr qu'il rit de lui. Ce qui lui fait le plus mal, c'est pas qu'il se moque de lui, mais que son amitié est finie. Qu'il ne le reverra plus. Qu'il ne le reverra sûrement plus. Il aime encore malgré sa tristesse. malgré sa traîtrise. Pour la première fois de sa vie, oui, pour la première fois de sa vie, il sait ce que c'est que d'aimer. Il sait ce que c'est que d'aimer une personne qui vous rejette. Il est de plus en plus chaud, les larmes coulent sur ses joues. Il voit de loin ce Maurice, les mains dans les poches, fier, arrogant, sûr de lui, parler en riant à ses camarades. Il ne peut s'empêcher de le trouver beau et d'être fier de lui. Et cela le fait aussi souffrir de voir qu'il ne sera plus jamais son ami. Au bout d'un moment, il voit Maurice quitter ses amis et s'éloigner pour aller en direction des WC. Jules a une lumière d'espoir et va vers lui. Il veut s'expliquer avec lui, seul à seul, pour arranger les choses. Il s'approche de lui. Il est prêt, des WC. Maurice. Maurice se retourne. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te parler. Pourquoi? C'est fini, Udo. Je lui dis. Attends, au nom de notre amitié, laisse-moi tranquille avec ça. J'ai le cœur gros. Pourtant, tu m'aimais bien. Toi, un minus. Je t'ai rendu des services. Maurice a des épaules et lui dit. Et alors? Rien. Il ne sait quoi dire. Maurice se retire. Jules aimerait le retenir. Mais il ne sait pas comment. Voici une année scolaire qui se termine mal pour lui. La matinée se passe à la préparation pour la cérémonie de la remise des prix. Les élèves s'affairent à poser des bancs, des tables, sur une estrade, dans la salle des fêtes. Jules ne participe pas à ces élaborations. Il reste dans un coin à regarder, le corps trop gros. N'ose pas regarder Maurice, qui est avec ses amis, qui amène des bancs pour le public. Mais il le revoit dans sa tête, avec cette élégance, cette grâce toute naturelle, qui, pour éviter qu'elle ne disparaisse, cultivée par une éducation qui ne se fait plus à notre époque. Notre jeunesse est libre. Mais elle n'a aucune grâce, élégance. Elle est trop cool, trop molle, détendue et a tendance à sombrer malgré sa beauté dans le vulgaire. Regardez les portraits des jeunes du 19e jusqu'en 1930. Leur éducation leur donne à tous une grâce, une distinction que la jeunesse du 20e n'a plus. Et les jeunes filles, à force de s'habiller, de vivre comme les garçons, perdent leur féminité. Lorsque l'on met des baskets toute l'année, l'on ne sait plus marcher avec des chaussures de femme. L'on marche et l'on s'assoit les jambes écartées comme les garçons, ce qui est laid pour eux aussi. Jules trouve la matinée longue, longue. Il aimerait être seul. Oui, il aimerait être seul. La cloche de la sortie de 11h30 a retenti. Il va être obligé de faire bonne figure à sa famille. À la sortie du lycée, il retrouve son frère et sa sœur. Un garçon se met à lui crier « Et Jules Beaumandin, la fille !» Sa sœur lui demande « Pourquoi il te traite de fille ?»« Laisse, allons !» Charles-André lui dit « Tu veux que j'aille lui casser la figure ?»« Non, ça ne vaut pas la peine. » Et il s'éloigne.
Madame Désir.
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
Arrivés chez eux, ils prennent leur repas seul. Charles-André, tout en mangeant, dit « Père est de retour. Ce soir, il va pouvoir nous dire si à Paris, l'on prépare la guerre. » Apolline lui dit « J'espère que non. » Charles-André lui répond « Il le faut. La Prusse nous a humiliés. » Apolline lui répond « Nous ne devons pas nous occuper de la succession du trône d'Espagne. S'il y a la guerre, nous ne pourrons pas partir en vacances. » Charles-André lui dit « Si nous partirons, car mère trouve que c'est moins dangereux que de rester dans une ville comme Lyon. » Jules ne dit rien. Les vacances, il s'en moque. Il vient de perdre un ami. Il n'a ni faim, ni soif, ni rien. Il ne veut qu'être seul. Et dire que cet après-midi, il y a la distribution des prix. Malgré qu'il en ait, il s'en passerait bien. Puis, il y a sa mère qui sera là, et son frère, et sa sœur. Et sa sœur. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
La CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.